Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Julien et Aurélie ont sillonné le Japon, de la banquise d'Hokkaido à l'archipel tropical d'Okinawa, à la découverte de ses 100 vues les plus emblématiques. Je les ai rencontrés au grand bivouac d'Albertville, où ils étaient présents pour dédicacer le livre qui retrace leur aventure.
Aurélie et Julien, vous rentrez du Japon, avec sur la table un bouquin, Les 100 vues du Japon. Donc on va en parler un petit peu, mais d'abord j'aimerais m'intéresser à vous, votre parcours. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie de prendre la route et surtout pourquoi le Japon? Parce qu'on ne va pas au Japon par hasard, c'est pas forcément un voyage touristique.
Alors en fait on va presque au Japon par hasard, dans le sens qu'Aurélie et moi sommes tous les deux journalistes de formation. On s'est rencontrés à l'école de journalisme de Marseille avant de travailler quelques années dans l'ouest de la France pour le grand journal régional Ouest-France. Et après une période de CDD, on avait bossé à fond pendant 3 ans, donc on a voulu partir loin, longtemps, et faire autre chose que du journalisme pendant un temps. Et à ce moment-là, on voulait juste un pays culturellement éloigné d'une autre. Mais on n'avait pas une attirance particulière pour le Japon. On était au début partant pour aller en Inde, mais sauf qu'on n'avait pas le temps d'aller à Paris pour faire de visa pour l'Inde. Donc on s'est dit, où est-ce qu'on peut partir? On a découvert qu'au Japon, on pouvait faire du volontariat dans des fermes, le woofing. Et on s'est dit, bah voilà, ça a l'air cool, des fermes au Japon, agriculture biologique, des bons produits, une cuisine familiale. Ça nous branche. Donc on est parti 6 mois en fait au Japon il y a 3 ans. On a bossé dans 7 ou 8 fermes différentes un peu dans tout le pays, et ça nous a fait découvrir un archipel qui correspondait pas forcément aux images qu'on en avait. C'est-à-dire on a découvert la campagne japonaise, les insectes, la nature, une faune et une flore vraiment très forte, beaucoup d'animaux sauvages, des Japonais très spontanés, très vivants, très ouverts, très attachés à leur gastronomie locale. Beaucoup de paysages naturels, beaucoup de sites vraiment impressionnants, une variété de paysages naturels aussi. Et on s'est dit, peut-être ça vaudrait la peine de revenir là encore plus longtemps et de faire un projet par rapport au Japon.
Donc le premier voyage au Japon, c'était pour du woofing. Là, c'était vraiment s'insérer dans la culture japonaise par le travail. Donc le woofing, c'est peut-être intéressant d'en parler un petit peu, parce que c'est une démarche où tu peux voyager à moindre frais et surtout en étant impliqué dans une dynamique locale. Willing working on organic farm.
Ouais, c'est ça, c'est exactement nous ce qu'on a cherché à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas le budget pour partir 6 mois et on voulait s'intégrer un peu plus, rencontrer des gens, aller dans des familles. Et c'est ça, les gens qui sont dans le réseau de woofing, même au Japon, sont sur des logiques durables et associatives et souvent biologiques aussi pour leur agriculture. Nous, on a bossé, donc on est arrivé dans une petite ferme qui faisait du riz dans des rizières. On a mis les pieds dans les rizières pour désherber du coup à la main parce qu'il n'y a pas de pesticides dans leurs rizières. C'était sympa. Ensuite, on a fait une ferme où on ramassait des œufs. Il y avait des milliers de poules qui étaient dans des enclos où elles avaient la place de gambader et de s'attaquer entre elles et de faire ce que font les poules au quotidien et de faire des bains de terre et de poussière. Et on a ramassé des milliers d'œufs. On les a vendus sur des petits marchés locaux, pareil. C'était très chouette comme immersion au Japon. On a bossé aussi dans un café associatif à Yofuin. Yofuin qui est dans le Kyushu, le sud-ouest du Japon. Une toute petite ville qui est une station thermale champêtre, mais qui cache aussi un noyau contestataire qui s'est opposé à plein de projets d'immobilier assez grands et qui devait détruire toute la nature de leur bassin dans les années 50 puis 70. Et donc la jeunesse des années 50 s'est retrouvée aux commandes dans les années 70 à la mairie. Et ils ont réussi à préserver un urbanisme cohérent, régulier, de petite échelle. Et ça fait une petite cité vraiment sympa. Et nous, on a bossé dans un café communautaire qui préparait des plateaux repas pour des vieilles personnes à ce moment-là, isolées, pour leur amener un peu et entretenir du lien social.
Au Japon, il y a quand même une problématique qu'on va assez rapidement découvrir en arrivant là-bas, c'est la problématique linguistique. On n'arrive pas forcément à se repérer dans ce langage des signes et aussi dans cette langue. Peu de Japonais sont d'ailleurs anglophones. Comment est-ce que dans les fermes, souvent isolées, tu arrives à communiquer? Est-ce que les gens parlent l'anglais?
Mais alors du coup, sur le réseau du woofing, on peut vérifier en amont les profils des gens sur le site internet, et ceux qui ont un profil avec un peu d'anglais écrit ou ceux qui disent accepter les gens qui parlent que anglais, en général arrivent à se débrouiller un petit peu en anglais. Mais c'est pas toujours évident et c'est souvent un mauvais anglais. Ça permet de pratiquer le japonais aussi et d'apprendre un peu quelques mots. Au point que la dernière ferme qu'on a fait dans les 6 mois, c'était une toute petite ferme dans les montagnes qui produisait du wasabi. Et là, c'était une vieille dame qui parlait que japonais. On s'était dit, ben, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et on pouvait échanger un peu avec elle. Mais clairement, à l'époque, on était très très mauvais en japonais. Mais ça n'empêchait pas parce que les japonais sont débrouillards et font tout pour essayer de communiquer. Et souvent, ils ont leur téléphone pas loin, ils parlent dans l'application et ils nous montrent en anglais ce qu'ils veulent dire. Et on comprend à peu près. Donc ça marche.
Donc ça, ce premier voyage de 6 mois au Japon vous a donné envie d'y retourner.
Ouais, c'est ça. On s'est dit que ce serait chouette de présenter le Japon qu'on avait découvert. Le Japon plus de la nature, le Japon des fermes, le Japon des parcs nationaux. Et de l'introduire un peu aux Français. Qui, quand on pense Japon, nous c'est Tokyo, Kyoto, Hiroshima, ou alors les grandes villes ou les séismes, les robots, c'est pas forcément ça qu'on a en tête. Donc on est revenu en France, on a passé un an à Lyon comme journaliste indépendant. Et on a mûri un projet de blog voyage pour aller à la découverte des 100 paysages du Japon. Parce qu'en fait, en voyageant là-bas, on avait découvert une liste faite en 2009 par les Japonais qui avaient voté donc pour leurs 100 paysages préférés dans l'archipel. Et on s'est dit, c'est épatant parce que c'est le point de vue japonais sur leur pays. C'est une liste qui présente des sites très variés du plein nord. Ça commence avec la banquise au nord et ça se termine avec la barrière de corail, donc sur l'archipel d'Okinawa tout au sud. Et donc nous, ça nous permettait d'aller, on s'est dit, il faut aller voir tous ces sites, les photographier, se renseigner sur eux pour comprendre pourquoi ils sont si importants pour les Japonais. Et c'est ce qu'on a fait du coup en 13 mois de février 2017 à mars 2018.
Vous avez commencé où alors? Parce que le Japon, c'est vrai, tu l'as dit, on pense à Tokyo, Hiroshima, mais c'est 4 îles principales, c'est des milliers d'îles tout autour, donc Hokkaido tout au nord, Kyushu, Honshu et Shikoku, plus Okinawa tout au sud. Donc par où a commencé le périple?
Alors du coup, quand on est retourné au Japon, on s'est posé à Tokyo. Au départ, on avait le vague projet de faire le tour de ces sites en une seule boucle et en van aménagé. Mais on s'est rendu compte assez vite qu'on n'avait pas le budget. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des tout petits vans aménagés japonais qui sont assez épatants. On n'avait pas le budget pour faire ça d'un coup. Et surtout, ça posait trop de contraintes en termes de saison. Parce que dans ces vues, il y a des paysages à voir en automne, des à voir en hiver, des à voir avec des fleurs. Et du coup, avec un seul véhicule, ça aurait fait des trajets pas possibles. Donc finalement, on s'est basé à Tokyo. On a loué une toute petite chambre à Tokyo. Où on était quand on voyageait pas, où on laissait nos affaires, on laissait le matos. Et on est parti, on partait à chaque fois une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour aller dans une région, voir les paysages de cette région. Et ensuite on revenait à Tokyo, ça nous a permis de trouver du boulot à Tokyo pour financer le voyage. On s'est mis tous les deux à travailler pour produire des textes en français pour des agences japonaises qui en avaient besoin pour faire des sites ou des brochures dans la promotion touristique notamment, ou de la traduction anglais-français, des choses comme ça, et on pouvait voyager et travailler en même temps. Ça nous a permis aussi d'expérimenter à peu près tous les moyens de transport, parce qu'on est passé, on a fait du stop des fois, on a loué des voitures, on a pris le train, on a pris des avions, il y a pas mal d'avions low cost au Japon, c'est pas mal. On a expérimenté des espèces de billets de train pas chers pour 70€, on a droit à 5 jours de train illimité, mais en prenant que les trains locaux. Donc ça fait que pour partir de Tokyo et aller à l'extrême nord du Japon, il y a 15 changements à faire, il faut se lever à 5h, on arrive à 23h. On a fait tout ce qu'on pouvait pour économiser et pouvoir aller au bout du projet.
Est-ce que tu as eu l'occasion de créer du lien avec les Japonais? Est-ce qu'on trouve facilement des copains japonais? Parce que là, vous étiez quand même pas mal en itinérance.
Ouais, alors du coup, les Japonais sont un peuple qui sont... C'est pas forcément évident de créer du lien avec eux. Et une bonne partie des Japonais, en fait, sont pas du tout intéressés par l'étranger ou les étrangers. C'est un pays qui est assez fermé sur lui-même. Mais à l'inverse, il y a quand même une bonne partie des Japonais qui ont beaucoup de curiosité pour les autres pays, qui veulent voyager et qui du coup sont très contents de voir des étrangers. Particulièrement quand on va dans les endroits qui ne sont pas des endroits touristiques classiques, qui ne sont pas Tokyo et Kyoto, les Japonais sont de base curieux et viennent assez vite nous parler pour demander qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, qu'est-ce qui nous a amené dans leur village et tout ça. Ils sont curieux. Après, c'est pas forcément un lien très profond à ce niveau-là, mais il y a des discussions, on peut passer des soirées avec eux et tout ça, c'est assez chouette. On a plus noué des liens avec des Japonais à Tokyo, parce que du coup, on se posait pour bosser dans des cafés ou sur des espaces de coworking, et là, on croisait des Japonais qui étaient dans des mêmes démarches, qui bossaient en indépendant et qui parlaient un petit peu anglais. Et du coup, on a fait des soirées avec eux, on a passé du temps, on a parfois vu leur famille, on est parti dans leur dans leur ville d'origine, et ça fait que on a pu construire des relations au long cours qu'on suit encore aujourd'hui.
Et vous voyagez en couple, donc c'est peut-être plus compliqué aussi dans l'entité du couple de s'ouvrir sur l'autre.
Ouais, tout à fait, parce que par exemple, on avait essayé dans le premier voyage, il y a 3 ans, de faire du couchsurfing au Japon, mais en couple, les profils sur couchsurfing, c'est beaucoup de jeunes, des hommes seuls par exemple, et là, bah, ils voyaient qu'il y avait aussi une femme dans le couple, donc ça leur aurait pas trop, ils préféraient des hommes seuls, ou à l'inverse, c'était des jeunes filles célibataires qui bossaient et tout ça, et elles préféraient avoir que des filles seules, donc en couple, c'était un peu difficile. C'était une barrière, ouais, pour faire du couchsurfing en tout cas.
Vous avez voyagé avec différents modes de transport. L'idée, c'était d'aller découvrir ces sites incontournables du Japon. Il y en a 100 qui sont décrits dans le livre. Qu'est-ce que tu as envie de me présenter? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Parce que là, je vois sur la couverture déjà 3 choses différentes. Je vois les grues japonaises dans le nord à Hokkaido. Et on voit la porte de... Ça doit être quoi? Ça doit être un Miyajima, je crois. La porte à Miyajima... qui était la porte d'entrée pour aller au temple, et je vois aussi un château. Donc ça, c'est quoi? C'est essentiellement des lieux culturels, historiques, des sites naturels, ça regroupe vraiment tout?
Alors du coup, ouais, dans la liste, ce qui nous intéressait, c'était le côté choisi par les Japonais, et le fait que c'est une liste très variée. Il y a des montagnes, il y a des stations thermales, il y a des festivals, il y a des pèlerinages, il y a des paysages urbains, il y a une zone industrielle qui était assez à la mode chez les photographes il y a quelques années au Japon. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sur la couverture, on a 3 sites variés. On a donc les grues japonaises à Hokkaido, qui avaient été menacées de disparition au 19e, mais qui sont finalement... la population a réussi à s'établir là-bas et elles sont nourries par les agriculteurs en hiver. Il y a un tori flottant qui a les pieds dans l'eau, mais qui n'est pas celui de Miyajima, en fait. C'est un piège, justement. Il y en a plusieurs au Japon. Le plus connu, c'est celui de Miyajima, mais celui-là, il est sur le lac Biwa, qui est un lac à côté de Kyoto, le plus grand lac du Japon et le 3e plus ancien lac du monde. Mais qui n'est pas du tout un site touristique. Nous, quand on y était, on était avec des quarts de retraités japonais. Alors que pourtant, c'est un paysage assez impressionnant. Et le dernier, c'est le château de Hirosaki, qui est un petit château japonais, qui est l'un des 12 châteaux authentiques du Japon. Parce que nous, ce qui nous avait... pas déçu, mais étonné dans notre premier voyage, c'était que beaucoup de châteaux qu'on voit souvent en photo sont des châteaux reconstruits au 20e siècle en béton, notamment celui d'Osaka. Et donc l'intérieur, c'est en béton, c'est des ascenseurs, c'est moderne, donc ça correspond pas forcément à l'image qu'on en a. Le château de Hirosaki, c'est un petit château en bois, dans son jus, préservé. Sinon, on a été vraiment passionné par les sources chaudes au Japon, qui n'est pas une des facettes du Japon qu'on connaît le plus. C'est un pays de thermalisme. Grâce aux volcans, il y a des onsen, donc des sources chaudes où se baigner partout dans le pays. Et c'est des bains bons pour la santé, avec des oligo-éléments, des minéraux qui sont naturellement chauds. L'eau est parfois blanche, parfois bleue, parfois verte, parfois laiteuse ou boueuse, ou alors claire. C'est une habitude japonaise de se baigner tous les jours, du coup, si possible dans des sources thermales comme ça, sinon dans des bains d'eau classiques. C'est assez passionnant. C'est une culture ancienne du Japon, ça.
Les onsen, ouais, c'est vrai que tu les retrouves aussi des fois à l'état sauvage et naturel. Tu peux arriver dans une montagne et puis voir là, au milieu de nulle part, une rivière qui jaillit de la terre, parce que c'est très, très volcanique.
Ouais, il y a beaucoup de paysages liés à ça. Il y a beaucoup de volcans, de zones qui s'appellent souvent les enfers, parce que c'est des zones avec des fumerolles, c'est des paysages qu'on ne s'attend pas à trouver. Ça pourrait ressembler un peu à l'Islande aussi. Il y a des variétés de couleurs et des variétés de reliefs dues à ce volcanisme. Et en plus, les Japonais, avec leur passion du détail, leur minutie, crée souvent des bains extérieurs qui sont des bains où apprécier une vue, un panorama ou un jardin, et du coup on se baigne. Et l'état d'esprit japonais, c'est de se baigner, de rester dans l'eau chaude comme ça longtemps et de regarder le paysage en réfléchissant au sens de la vie, quoi. C'est très japonais.
Là, tu fais une projection tout à l'heure. De quoi tu vas parler pendant ta projection?
Alors du coup, pour accompagner la sortie du livre, on a créé un diaporama avec Aurélie, en prenant le parti de montrer un Japon différent, c'est-à-dire que dans notre diaporama, il n'y a pas Tokyo, il n'y a pas Kyoto, il n'y a pas les sites touristiques habituels, il n'y a pas non plus de temple ni de sanctuaire. C'est vraiment le Japon qui nous a surpris il y a 3 ans, qu'on veut partager. Donc on présente différentes facettes du pays, on présente le côté nature, avec les endroits où on a croisé des animaux sauvages, beaucoup, la péninsule de Shiretoko par exemple, à Hokkaido, là où il y a la plus grande concentration d'ours au monde par exemple. Enfin, tout ce côté du Japon qu'on n'attend pas. Les festivals aussi, les festivals, parce que toute l'année au Japon, il y a des rendez-vous festifs très différents, très colorés, très variés, qui implique les communautés à chaque fois locales. C'est vraiment les habitants de tous les quartiers des villes qui se rassemblent, qui font par exemple défiler des lanternes, des chars. Il y a plein de types de processions comme ça, donc on fait une partie là-dessus, parce qu'on en a vu une dizaine dans l'année, il y en a trois qui correspondent à des vues dans le livre. Et puis après une dernière partie sur les passions nationales, et pareil les passions qu'on n'attend pas. On évoque les floraisons à la fin, mais pas que les cerisiers du coup, parce que le calendrier floral s'étale sur toute l'année. On évoque la passion des chemins de fer, qui est une passion partagée par toutes les générations de l'archipel, avec plein de locaux à vapeur qui circulent sur des anciennes voies, avec le Shinkansen évidemment, avec des musées du chemin de fer un peu partout. Et on évoque donc le thermanilisme dont on parlait tout à l'heure, avec les sources chaudes, les bains, ces capitales thermales, où à Beppe notamment il y a 2000 bains dans la ville. Beppe, c'est une petite ville qui fait 30 km² et qui possède le deuxième plus grand débit d'eau thermale au monde après le parc de Yosemite aux États-Unis.
Vous êtes baladé un petit peu dans les montagnes aussi, vous avez fait un peu de trek?
Ouais, on a fait un peu de randonnée. On a fait, personnellement, moi, le paysage que je préfère, c'est le mont Zao, qui est un mont dans le nord du Japon, dans le Tohoku, qui présente un paysage exceptionnel avec un cratère qui est rempli d'un lac qui est bleu turquoise. La terre est ocre autour, même en été, il reste toujours un peu de neige qui font des taches blanches, on a un peu randonné autour. C'est par ailleurs une station de ski avec une très bonne neige. Ça c'est une des belles randonnées qu'on a fait. Sinon la plus grande randonnée qu'on ait fait, c'est l'île de Yakushima, tout au sud du Japon, celle qui possède des forêts de cèdres millénaires et qui a inspiré le maître de l'animation Miyazaki, notamment pour Princesse Mononoke. Là on a fait une grosse rando parce que pour aller au cœur de l'île voir le Jomonsugi, qui est le plus vieux cèdre du Japon, c'est 11 km aller, donc 22 km aller-retour, et ça fait 9-10 heures de marche parce qu'il y a un bon dénivelé aussi. Et la moitié de la rando se fait en marchant dans les racines, sur des petits chemins. Il faut contourner tout ça et passer vraiment dans les racines des cèdres millénaires. Ça fait une ambiance presque mystique, il y a beaucoup de brume aussi.
Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui reste du Japon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de partager en premier? Parce qu'il y a tous les stéréotypes qu'on peut en avoir, mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a manqué aussi? Ou qu'est-ce qui vous a manqué à votre retour?
Alors du coup, là, ça fait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous manque du Japon? On a beaucoup apprécié la gastronomie japonaise et aussi la manière de manger des Japonais. Ils mangent beaucoup de bons produits, ils font beaucoup attention à la qualité de leurs ingrédients. Ils sourcent beaucoup leurs produits, du coup c'est souvent des produits locaux qui sont mis en avant quand on voyage. Ça c'est très chouette, notamment quand on voyage en voiture, les aires d'autoroute sont des endroits exceptionnels au Japon. C'est à mi-chemin entre la coopérative locale où viennent tous les paysans pour présenter leurs produits. Donc en plus souvent des produits bio, une vitrine pour l'artisanat local et un centre d'information touristique, et il y a souvent des petits restaurants de spécialité du cru, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et donc quand on revoit nos aires d'autoroute en France, ça manque beaucoup ça. Ouais, la nourriture japonaise, le fait de manger moins et de manger plus sain, ça nous manque beaucoup. Les bains nous manquent énormément parce qu'on n'avait pas de salle de bain dans notre chambre à Tokyo, on allait tous les jours au bain public et donc on était dans un récurage quotidien à la japonaise qui durait une heure ou deux avec beaucoup d'immersion. Ça nous manque beaucoup. La spontanéité et la gentillesse des Japonais, en fait, étonnamment, dès qu'on sort de sentier battu, ils viennent vraiment vers nous. Donc ça, ils discutent beaucoup, ils sont curieux et tout. On n'a pas tant que ça en France. L'état d'esprit n'est pas forcément le même, dans le sens qu'on s'habitue vite à la sécurité, d'une certaine manière, au Japon. Pourtant, c'est pas pire en France, mais c'est vrai que là-bas, au Japon, on peut oublier un portefeuille sur une table et il reste une semaine là. Quand on va au café au Japon, même en terrasse, quand on trouve des terrasses, les gens, pour garder leur place, le temps d'aller commander, laissent leur smartphone en terrasse, comme ça, le temps d'aller payer, régler leur café, d'aller aux toilettes. C'est quelque chose qu'on n'a plus en France.
Une île aussi qui est assez connue, dont on parle de plus en plus par rapport au pèlerinage à Shikoku.
Ouais. Shikoku, c'est marrant, c'est que c'est une île... c'est plus tranquille, c'est plus rural... dans le sens qu'il n'y avait aucun pont qui la connectait à l'île principale avant les années 80, quoi. Donc elle a longtemps été très isolée. Pour autant, c'est pas là qu'on a la nature la plus préservée. En fait, c'est ça qui nous avait étonné, parce qu'il y a des sites culturels et naturels assez exceptionnels, mais il y a aussi beaucoup de zones industrielles un peu anciennes. C'est pas aussi préservé que le nord du Japon, par exemple. C'est le lieu du pèlerinage. Nous, le pèlerinage est l'une des 100 vues du Japon. On n'a pas pu le faire dans son ensemble parce que sur un an au Japon pour voir les 100 paysages, on n'a pas pu marcher pendant un mois et demi. Mais on a fait un peu quelques étapes en randonnant. On est allé voir plusieurs temples quand on était autour de l'île. C'est ce qui nous a beaucoup étonné, du coup, en croisant les gens là-bas, c'est que les Japonais, eux, font rarement le pèlerinage à pied. Parce que les gens qui ont le temps le font souvent en bus ou en voiture ou en voyage organisé, c'est des retraités. Et du coup, on croise pas tant que ça de gens à pied, de pèlerins, même avec l'habit traditionnel, ils sont dans des bus de tour opérateur souvent. Et du coup, ceux qui font le pèlerinage à pied, c'est peut-être à 60-70% des étrangers, en fait, des Européens, des Américains, des Australiens. Et nous, on a croisé un pèlerin japonais qui le faisait à pied, sinon c'était des Occidentaux. Mais c'est, paraît-il, difficile parce que justement, il y a beaucoup de passages un peu dans des zones périurbaines. Il y a un passage dans un tunnel routier qui apparemment est difficile. Mais de ce que nous ont dit les pèlerins qu'on a croisés là-bas, tous les bons moments dans la nature, l'accueil des Japonais envers les pèlerins, les moments dans les temples, les moments d'introspection pendant la marche compensent totalement les petits passages urbains.
Il y a aussi cet aspect à la spiritualité au Japon. Est-ce que tu as abordé ce sujet ?
Ouais, nous, ce qu'on a pu apprécier beaucoup, c'est dans le shintoïsme, l'attention portée aux petites choses, à chaque arbre, à chaque pierre, aux montagnes qui deviennent rapidement sacrées, mais d'une sacralité assez populaire en fait. Il n'y a pas un côté absolu comme on a dans les religions de la parole révélée, du livre en Occident, ou que ce soit christianisme, islam ou le judaïsme, où c'est une seule manière de penser et c'est normalement la vérité. Là-bas, le shintoïsme et le bouddhisme cohabitent bien maintenant. On l'entend cohabiter bien. Il y a eu un moment au 19e où les dirigeants ont voulu mettre que le Shinto en avant, ça a un peu fait des tensions, mais sinon, souvent les sites spirituels sont entremêlés entre bouddhisme et shintoïsme, avec une place importante réservée à la nature. Et c'est assez reposant d'avoir une religion plus tranquille comme ça, parce que du coup quand on parle aux jeunes japonais, souvent ils se considèrent pas religieux, mais ils font des cérémonies de temps en temps, le Nouvel An par exemple, des cérémonies au sanctuaire Shinto pour aller prier, mais c'est des petites divinités locales, c'est des choses vraiment tranquilles, il n'y a pas cet absolutisme qu'on a chez nous.
Donc le bouddhisme, ça va, on en entend parler, on imagine ce que c'est, on connaît plus ou moins, mais le shintoïsme, qu'est-ce que c'est ?
Alors le shintoïsme, c'est difficile à définir simplement, mais disons que c'est l'ensemble des petites divinités. En gros, pour le shintoïsme, la nature, il y a donc une mythologie japonaise avec des grandes divinités qui ont été rapidement associées à des éléments du patrimoine naturel national. Et il y a des esprits pour le shintoïsme dont toutes les collines et les montagnes sont rarement construites au Japon parce que c'est l'univers des divinités du shintoïsme. Il y a souvent un sanctuaire au pied des montagnes qui vénère l'esprit de cette montagne. Et du coup, c'est une religion qui est faite de beaucoup de petits riens, qui a beaucoup de rendez-vous dans l'année pour justement honorer ces divinités populaires des quartiers. Même dans Tokyo, on trouve beaucoup de petits hôtels Shinto parce qu'il y avait un arbre, ou parce qu'il y a un caillou ici, ou une pierre, ou une roche, ou une rivière. C'est vraiment les esprits de tous les éléments de la nature.
Julien, merci à toi.
Ouais, donc les 100 vues du Japon, on a deux éditeurs, donc je vais essayer d'en oublier aucun. C'est leur première coédition, c'est Transboréal, spécialisé récit de voyage à Paris, et Elitis, qui fait plutôt du carnet de voyage à Bordeaux. Et le livre est en librairie depuis le 4 octobre 2018.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.